Regarde-moi ça! J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh!
Ça c'est de la vue!
Ah, c'est magique cet endroit!
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Néro.
Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui je t'emmène en Colombie. Et je t'emmène en plus avec un mineur. Alors pas un mineur, un mec qui est dans la mine et qui va chercher de l'or, mais avec quelqu'un qui a moins de 18 ans. Et je suis très content en fait de le recevoir parce que justement moi, j'essaie de prôner le voyage pour tous. Et peu importe l'âge que tu as ou les moyens financiers que tu as. Et j'avais jamais reçu un mineur sur, en tout cas au moment de son voyage sur le podcast. Et je suis impatient qu'il nous raconte son histoire en Colombie. Et bien, comment ça va?
Ça va super, et toi Alex?
Et bien écoute, ça va très très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu t'es dit que tu voulais partir en Colombie alors que tu n'étais même pas majeur? Pourquoi tu voulais partir, voyager?
Eh bien, ça a commencé assez tôt, en fait. Ça a commencé à peu près quand j'avais 13 ans. Et début, c'était tout simplement l'idée d'apprendre une nouvelle langue pour le futur, parce que je savais que j'allais en avoir besoin. Et puis après, de là, en commençant à chercher, il y a beaucoup de choses qui en ont découlé. Et c'était beaucoup plus que juste l'apprentissage d'une langue, en fait.
Ah, parce qu'à la base c'était très assez basique, genre je veux être bon à l'école, du coup je vais me barrer voyager en Amérique latine. Mais justement on pense souvent que, tu sais, quand on est mineur, ben c'est quand même, ben, on peut pas vraiment sortir du territoire s'il n'y a pas les parents qui sont à côté. Toi t'es parti sans tes parents, on est d'accord, sur en plus plusieurs mois. C'était combien de temps que t'es parti, rappelle-moi?
Donc c'était prévu pour 10 mois et ça s'est arrêté à 8 avec le Covid forcément cette année.
Oula, dur, dur.
Ouais.
Mais quand même, 8 mois, t'as pu profiter. En plus, c'était en Colombie. Et t'es parti, en fait, avec un système que, pareil, où on n'a pas reçu beaucoup de gens. Je me rappelle plus, je crois qu'il y a une ou deux personnes que, peut-être que, qu'on a reçu là-dessus. Mais c'est à travers le Rotary Club. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Ouais. Le Rotary Club, dans l'esprit des gens, je pense que c'est un club de gens qui ont plein de fric, mais on sait pas trop ce qu'ils font ni à quoi ça sert. Donc là, on va prendre l'angle de le Rotary Club, si je dis pas de bêtises. Il finance pas mal. Je dirais d'ONG ou d'étudiants qui vont étudier à l'étranger ou d'œuvres caritatives. Mais j'aimerais que toi, tu nous l'expliques en quoi ça t'a été utile et comment ça t'a permis de partir 8 mois en Colombie.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils font vraiment plein d'actions sur différents domaines, que ce soit la santé, l'écologie. Et il y a justement aussi ces échanges avec les jeunes qui vont parrainer différents jeunes pour qu'ils puissent passer une année à l'étranger, donc comme un Colombien pour mon cas, où je suis à l'école, je suis dans une famille. Donc c'est vraiment pour promouvoir la paix en fait qu'ils ont créé cet échange.
Mais attends, mais à quel moment tu arrives à choper ce financement-là? C'est genre bonjour, parce que toi, tes parents par exemple font, parce que c'est des idées reçues, mais est-ce que tes parents font partie du Rotary Club?
Non, mes parents non, mon grand-père oui.
Oula, ok, d'accord. Mais ouais. Est-ce que du coup, il faut avoir des membres de la famille qui font partie du Rotary Club pour être financé ou pas?
Non, pas du tout en fait. Beaucoup pensent que c'est le cas et en fait, il faut juste se renseigner auprès d'un club Rotary, donc celui de sa ville généralement. Et après, il va y avoir toute une étape de sélection pour voir ta motivation en fait. Et c'est à partir de là que tu vas commencer réellement ton échange.
Ok, t'es recruté. Alors, c'est quoi est-ce que c'est des trucs? Non, j'essaie de casser un peu les idées reçues, mais est-ce qu'il y a des tests genre ambiance franc-maçon avec des cérémonies où tu mets des bougies, des trucs comme ça dans le Rotary Club, ou c'est plutôt des entretiens normaux?
Non, du tout. Tu te rencontres dans un bar et il y a quelques personnes.
Dans un bar? Ah bah voilà, ça commence bien, ok.
Voilà, c'est pas du tout de rituel à ce niveau-là, non.
Et du coup, comment ça se passe? C'est quoi les entretiens? T'en as combien? Comment tu fais pour qu'on te choisisse toi finalement?
Donc en fait, ça a commencé au début avec une lettre de motivation. C'est comme ça que tu vas aborder ton club. Et en fonction, ils vont te communiquer une date pour faire un entretien d'une dizaine, quinzaine de minutes.
Ah, c'est tout?
C'est assez court. Et en fait, c'est là où il faut vraiment donner tout ce que tu as pour prouver ta motivation et pourquoi tu veux le faire réellement. Et donc il y a très très peu de place avec le Rotary. Donc par exemple dans ma ville, il y avait 4 candidats et seulement 2 places. Donc chance sur 2 d'y passer. Et
dans des mais attends, t'avais quand même 50% de réussite quand même potentiel. Enfin c'est
voilà, mais c'est pire dans les grandes villes. Donc faut vraiment tout donner sur cet entretien et ensuite tu vas avoir un deuxième entretien où là tu vas plus parler de quel pays t'intéresse, pourquoi, pour vraiment valider complètement ta candidature.
Et donc, parce que le premier entretien, quand c'est par téléphone ou c'est en physique?
C'est un physique.
Ok, ouais, donc là, faut se donner. Mais quand tu dis faut tout donner à ce moment-là, parce que je pense à tous ceux qui peut-être vont vouloir exploiter ce levier pour pouvoir partir à l'étranger, quand tu dis faut tout donner, c'est quoi? C'est tu fais de l'œil un petit peu aux gens qui sont en face, bonjour, vous êtes beau, je vous aime beaucoup. Ou alors tu dis, parce que si t'as pas encore, si tu parles de ton pays dans le deuxième entretien, de quoi tu parles dans le premier entretien?
Non, donc dans le premier, il faut vraiment parler, en fait, il faut essayer de cibler ce qui les intéresse. C'est-à-dire que moi, je connaissais déjà le Rotary avant, je connaissais des gens qui étaient partis en échange et je savais ce qui les intéressait dans les jeunes. Donc
Qu'est-ce qui les
vraiment,
intéresse?
et ben, ce qui les intéresse, c'est d'abord une ouverture d'esprit. Pour le
Ok.
voyage, forcément, c'est super important.
Ouais.
Ensuite, il faut que tu montres que tu n'as pas peur de t'intégrer dans le pays où tu vas aller, dans la culture.
Ouais.
Et ensuite, vraiment promouvoir la paix, en fait, si on veut, ça peut être un plus,
Ah, tu es une
justement.
Miss France. Je prévois la
C'est un
paix
pays.
dans le monde et je veux que les enfants soient en sécurité.
Mais en fait, je dis ça parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on participe à des actions caritatives dans le pays.
Ah,
Si tu
d'accord.
rates ça, forcément, tu vas marquer des points.
Ah, mais ça veut dire que c'est toi qui dois le mettre en place et le préparer dans ton projet, ou est-ce que de toute façon, si tu y vas, ça fait partie déjà de leur structure sur place qui peuvent te, enfin que tu dois faire.
En fait, ça dépend vraiment du pays. Tu peux partir de toi-même avec ton idée et créer une action, ou alors tu vas te renseigner auprès de ton club d'accueil et savoir dans quelle action tu peux participer. Donc c'est comme ça que moi j'ai pu participer à peut-être 5-6 activités durant mes 8 mois en Colombie.
Ok, cool. Bah, écoute, on va en reparler.
Super.
Parce qu'en fait, si, parce que j'aimerais comprendre, c'est en fait c'est des échanges entre Rotary Club, en fait. C'est ça pour faciliter. Parce que toi, quand tu arrives là-bas en Colombie, tu as un Rotary Club pardon, sur place qui te prend un peu sous son aile et qui t'aide après. C'est ça?
C'est ça. Voilà. C'est
Ah.
vraiment un échange de Rotary à Rotary entre pays.
Ok. Mais encore une fois, t'as pas besoin d'être membre à la base. C'est tu
Absolument.
finalement tu deviens, tu commences à faire partie du Rotary parce que tu bénéficies de l'échange, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Alors, t'as le premier entretien, tu donnes tout, t'es ouvert d'esprit, t'es là, t'adores donner, t'adores la paix dans le monde et t'adores aider les gens. Ce qui, au passage, j'aimerais qu'il y ait plus de gens comme ça. Je pense qu'on en a besoin surtout en ce moment. T'as deuxième entretien, tu parles du pays où tu dis un peu où est-ce que t'as envie d'aller. Est-ce qu'il y a une liste restrictive ou est-ce qu'entre guillemets, c'est open bar, t'as juste à. Tant qu'il y a un Rotary Club, tu peux y aller.
Non, en fait, il va y avoir des conditions au niveau de l'âge, par exemple, parce que donc pour partir avec le Rotary, tu dois avoir entre 14 et 18 ans. Et donc,
Ah, ok,
après,
d'accord, c'est fait pour les jeunes, les très jeunes.
ouais, les très jeunes. Et après, il y a des pays dans lesquels tu vas pas pouvoir y aller. Si, par exemple, tu as 17 ans et pendant ton année d'échange, tu vas avoir tes 18 ans pour des raisons de loi, d'immigration. Donc, c'est à ce moment-là où certains pays vont pas être accessibles.
Ah, mais en fait, finalement, le Rotary, cet échange-là, c'est vraiment destiné aux mineurs et pour justement pouvoir vivre, bah, quand t'as pas encore 18 ans, ou peut-être même pas forcément les moyens, une expérience à l'étranger, c'est ça?
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Et alors, si le deuxième entretien, ça se passe bien, comment ça se passe après?
Et bah après, on t'envoie un dossier énorme,
Des
réellement.
datas, ok.
Ah, voilà, ouais, chargé comme il faut. Et donc ensuite, il va falloir remplir plein d'informations. Il va falloir valider donc cette première partie. Et après, c'est tous les documents officiels à faire traduire, à faire certifier,
Ah ouais.
à faire scanner pour mettre dans la version en ligne, à imprimer en papier. C'est un gros gros dossier qui prend vraiment plusieurs mois même parce qu'il y a les rendez-vous à l'ambassade, le visa.
Ah ouais.
C'est vraiment
Ah
vu
mais
qu'en
c'est
plus.
bien. Non mais c'est pour. Ok, faut mériter sa place quoi. Faut montrer
Ah
ta motivation.
oui.
Et du coup une fois qu'on t'a envoyé, je sais pas, une petite lettre ou un SMS ou un pigeon voyageur pour te dire que c'était bon. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe après sur place? T'arrives en Colombie. Déjà t'as choisi la Colombie. Pourquoi t'as choisi la Colombie? T'avais vu
Et
qu'il y avait
parce que.
des jolies filles, c'est ça?
Ah, j'avoue que ça m'a donné envie. Non, en
Ok,
fait, j'ai
d'accord,
pas
on a
choisi.
compris.
J'ai pas choisi la Colombie particulièrement. En fait, t'as que trois pays pour à mettre dans ta sélection. Et moi, j'avais mis
Ah.
la Nouvelle-Zélande, le Pérou et l'Argentine. Et ils avaient plus de place dans ces trois pays. Donc, ils ont choisi un autre pays d'Amérique du Sud. C'est comme ça, en fait, que je suis arrivé en Colombie.
Ah. Genre bon,
Choisi à la.
écoute, tes choix, c'est génial, mais on les a pas. Par
C'est
contre, on t'a dégoté un petit truc. Bon, ça va, t'es bien tombé avec la Colombie, c'est quand même assez génial.
Non, super bien tombé, c'est sûr.
Et en plus, je pense que c'est encore mieux parce que t'avais pas d'attente. Tiens d'ailleurs, comme ça, toi qui reviens fraîchement quand même de Colombie, comment tu nous résumerais le pays?
Ah, le pays, bah, forcément, on va commencer en parlant des gens, hein. C'est vraiment un pays où ils sont tous ouverts, tous joyeux. J'ai jamais été aussi bien accueilli quelque part où j'allais, alors que je connaissais même pas les personnes. On me tendait les bras de tous les côtés. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et puis, toujours la bonne humeur, la musique partout, on
La
danse
musique,
pour
ouais.
tout et pour rien. Et puis ensuite, des paysages magnifiques, hein. Enfin, si on regarde sur Internet, on
Mais
voit.
justement, les gens là, ils sont en train d'écouter, ils font leur vaisselle ou ils sont en train de faire leur footing, ils n'ont pas internet. S'ils devaient mettre, tu vois, s'ils devaient mettre un casque de réalité virtuelle sur leur tête, qu'est-ce qu'ils verraient? Décris-nous un peu les différents paysages de Colombie que tu as pu voir.
Ouais, bah ils sont nombreux, mais
C'est
tu
ça,
peux
ouais.
aller du désert bien ocre, vraiment sans aucune végétation, à aux plages forcément des Caraïbes avec le sable blanc, les palmiers, le ciel bleu, ou encore des collines, des vallées absolument vertes comme je n'avais jamais vu, ou des fleurs, beaucoup de fleurs en Colombie, hein, ils produisent énormément de fleurs. Donc il y a vraiment de toutes les couleurs, de tous les paysages. Et c'est vraiment ça qui fait la beauté de ce pays aussi, je trouve.
Ouais, j'avoue, c'est vraiment un pays en plus qui, ça fait plaisir pour eux après une histoire, on va dire, assez sanglante et violente. Ils sont quand même, enfin, ils se relèvent pas mal et c'est vrai que c'est un pays extraordinaire. Mais justement, en parlant de cette histoire, un peu, tu sais, ce stéréotype, pas stéréotype, mais une histoire qui leur colle à la peau. Toi, ça t'as pas eu peur justement de partir là-bas? Une appréhension? En plus, je sais pas, tu viens de l'Orient, t'es pas non plus dans une grande ville. À la base, enfin, c'est pas non plus, quoi que Lorient, ça reste une grande ville, mais c'est pas non plus des grosses capitales énormes. T'avais peut-être des a priori ou pas?
Non, bah en fait, vu que c'était un processus de plusieurs années, moi, peu importe le pays qu'on me donnait, j'allais être content. Donc, j'ai même pas réfléchi. On m'a dit la Colombie, aucune appréhension. Et c'est plus en fait par rapport aux autres personnes quand je leur ai dit que j'allais en Colombie. Là, ouais, la Colombie, t'es sûr de ton choix? Effectivement, quelques doutes sont apparus, mais ils ont vite disparu en regardant plus profondément ce que c'était le pays et ce que je pouvais voir là-bas. Et là, non, c'est bon, tout était parti.
Alors t'as atterri où en Colombie? Est-ce que t'as passé tes 8 mois?
Et donc moi j'étais au sud de Cali, dans une petite ville qui s'appelle Tuluá, qui avait environ 200 000 habitants.
Petite ville à 200 000 habitants. Ah ouais, pas mal. Ah ouais, dans le sud, à Cali. Si, si, ça doit bien faire la fête aussi là-bas, je pense.
Ah, bien comme il faut,
Et
ouais.
parce que Cali, la capitale de la salsa, ça doit pas être, vu que c'est à quelques kilomètres, à mon avis, ça doit bien être imprégné de cette culture-là. Et typiquement ton quotidien, parce que tu vois, quand on fait des VIE, qui sont des programmes justement où tu vas travailler à l'étranger. Quand tu fais du working holidays, pareil, on sait que tu vas travailler. Quand tu fais, je sais pas, garçon au pair, on sait que tu vois, mais t'as une activité. Qu'est-ce que tu foutais là avec le Rotary Club? C'était quoi tes journées? T'allais à l'école, t'avais un taf? Bah non, t'étais mineur, mais qu'est-ce que tu
Ouais,
faisais?
bah, moi j'allais en cours, donc ce qu'ils appellent
Ah,
collège là-bas, où il y a
d'accord.
tous les élèves de 3 à 17 ans. Donc je commençais tôt le matin, je devais me lever à 5 heures
Ouf!
pour commencer les cours à 6h30.
Hein?
6h30, il
Putain,
fallait y être.
ça picote un peu là, j'avoue.
C'est ça, et donc je passais la matinée en cours jusqu'à 13h, 14h. Je
Ouais.
rentrais manger chez moi. L'après-midi, je faisais une sieste. Comme tout bon Colombien, il faut faire la sieste.
Ah, ouais.
Et après, j'allais à la salle de sport avec mes amis. Le soir, je sortais manger avec eux. Je découvrais ma ville.
Ah, mais du coup, ça veut dire quand même que, ok, ça pique la gueule, on va pas se le cacher, de se lever à 5 heures, mais derrière. Ça te laissait une liberté de toute l'après-midi de profiter de ta vie, de profiter des choses qui font du sens aussi. Pas juste rester comme en France, la gueule devant un tableau à écouter un mec qui est blasé. Mais il y avait aussi toute cette partie où finalement, ben, tu pouvais faire du sport, tu pouvais ben, en plus pratiquer ton espagnol parce que tu étais entouré que d'hispanophones, ou il y avait aussi des Français, ou du coup, ou justement, tu étais que avec des Français, en fait, t'as rien appris. Ça arrive souvent,
Non,
hein.
non, non, en fait, donc nous, on était 5 étudiants d'échange dans ma ville. Et donc, il y avait une Slovaque, une Allemande, une Italienne et un Belge. Donc, Belge qui parlait aussi français,
Ouais.
j'ai pas mal parlé français pendant l'année, j'avoue. Mais on parlait vraiment que espagnol quand on était tous les cinq.
Ah,
Donc, c'est ça
cool.
qui m'a permis aussi d'améliorer super rapidement la langue. Et c'était vraiment du bonus, quoi.
Et justement, comment s'est passé ton quotidien dans le sens où bah, c'était la première fois, je pense, que tu partais longtemps loin de chez toi. Est-ce que tu as eu des moments down? Est-ce que ça t'a tu, au contraire, tu te sentais exalté? Est-ce que tu as eu des peurs? Est-ce que tu avais envie de rentrer? Comment s'est passé émotionnellement?
Bah, forcément, il y a plusieurs phases. Et
Ouais.
pour beaucoup, on peut se dire ça peut être vraiment très stressant l'arrivée dans le pays, par exemple. Et moi, au contraire, j'étais même moi-même étonné de ne pas avoir d'appréhension, d'être simplement heureux de ce qui m'arrivait. Donc vraiment, les premiers mois sont super bien passés. C'était, je faisais que de profiter, vraiment, je vivais tout absolument à fond. Et c'est arrivé à Noël où là, j'avoue, il y a eu un petit moment de moins bien, forcément. Depuis que je suis petit, je fais Noël avec ma famille. Et là, on se
Ouais.
retrouve à l'autre bout de la planète sans
Avec un
repère, en fait.
Slovaque, avec une Slovaque et un Belge, merci quoi.
Ça, c'est pas pareil. Mais j'ai quand même réussi à retrouver la magie de Noël différemment, sous le soleil, en short. Et donc, j'ai réussi à passer cette étape-là. Et puis, bah, après, forcément, la quarantaine que j'ai commencée en Colombie, ça a été ouais, le moment vraiment dur où tu te poses énormément de questions, tu remets tout en doute. Et tu sais pas quoi faire. Tu sais pas si tu dois rester dans le pays, tu sais pas si tu dois rentrer. Parce que bah forcément, on n'avait aucune vision sur l'avenir, donc c'était vraiment compliqué ce moment-là.
Quand tu dis que tu étais chez toi aussi, c'était dans une famille d'accueil, c'est ça? Tu étais dans une famille, il y avait d'autres enfants ou comment ça se passait?
Donc en fait, on était dans trois familles séparées à 3 mois par famille pendant l'année. Donc ma première famille, j'étais qu'avec les parents et un chien. Et dans la deuxième famille, par contre, si il y avait quelqu'un de mon âge à peu près, il avait un an de plus.
Ah, cool!
Bon, on était malheureusement pas très proches, c'est ça qui était dommage.
Ah, il était, il
Donc,
t'aimait pas. Il aimait pas ta. Il était, non.
il était peut-être jaloux qu'il y ait un nouvel enfant dans la famille, je sais pas, j'ai jamais su. Mais ouais, les rapports étaient cordiaux, mais pas
Ouais,
plus
il t'a
quoi.
pas emmené voir ses potes, il t'a pas emmené sortir, etc.
Non, non, quasiment pas.
Ah mince. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que t'as pu rencontrer quand même des locaux, mais pas juste salut, ça va, mais t'as pu avoir des rencontres, des. Tu vois, passer des moments avec eux ou pas?
Tellement, tellement, c'est ça où vraiment j'ai eu beaucoup de chance, c'est que là-bas,
Ah.
la famille, c'est très important, les amis aussi, et on aime montrer ce qu'on a dans notre pays, quoi. Vraiment, ils sont fiers de ce qu'ils ont. Donc, j'ai eu énormément de rencontres avec vraiment des milieux très variés. Autant j'étais dans des familles assez aisées, dans le domaine de la santé, les trois familles. Et après, par contre, j'ai pu rencontrer des paysans, des producteurs de café.
Ah ouais?
Des anciens, des plus jeunes, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué. Ouais, j'ai eu une
Tu l'as.
expérience une fois
Justement, tu l'as
assez.
rencontré comment?
Et ben en fait, c'est souvent qu'ils connaissaient ma famille par n'importe quel moyen. Et donc, vu qu'ils connaissaient, donc par exemple, si on peut parler du producteur de café,
Ouais.
c'est un ami de ma première famille d'accueil. Et donc, à chaque fois qu'il y a des personnes qui viennent dans notre pays, ils vont faire un tour des fincas, ce qui s'appelle finca, donc c'est les maisons de campagne. Notamment où sont produits le café aussi. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré cette personne-là. On est parti à la journée en pick-up pour faire un tour de ces fincas et voir vraiment les différents paysages où il y avait vraiment beaucoup de café sur les collines. Une journée absolument magnifique, un soleil resplendissant. C'est vraiment, je pense, le moment qui m'a le plus marqué de mon échange de par ce que je ressentais, pas réellement ce qu'on a fait. C'était intéressant. Mais j'ai fait des choses plus folles, vraiment, c'est ce que je ressentais, les émotions du moment qui m'ont marqué pour toute la vie, ça c'est sûr.
Justement, est-ce qu'il y a des histoires comme ça qui t'ont, dans ton voyage, marqué comme ça autant, où tu te dis, tu sais, je pense que quand on parle d'un voyage, on a toujours des visages, des moments, des paysages qui nous reviennent en tête. Toi, c'est quoi ce qui t'a, si tu peux nous raconter un peu ces histoires qui t'ont marqué, c'est lesquelles?
Ah, il y en a tellement, mais bah, si je peux parler d'une personne déjà, ça va être premièrement mon père d'accueil.
Ah ouais.
Alors,
Lequel? Parce que
c'est
le
vraiment
numéro combien?
le numéro un, le numéro
Ah,
un.
ok, number one. Number one.
Voilà, sur tous les points, parce que bah, en fait, c'était donc mon responsable Rotary, c'est celui qui devait me surveiller, on va dire, et en même
Ouais.
temps, c'était mon père d'accueil. Et en fait, j'avais un peu peur au début qu'il soit trop strict sur les règles, qu'il soit vraiment très formel. Et au contraire, en fait, ça a été donc ce référent Rotary, ça a été aussi mon père d'accueil, mais en plus de ça, un ami. Il avait 52 ans, moi 16 au début de mon échange, 17 à la fin, et pourtant c'est un de mes meilleurs amis. Réellement, il m'a aidé sur énormément de points. Si j'arrive à bien parler espagnol aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si j'en connais autant de la culture colombienne aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si je me sens autant colombien, c'est grâce à lui aussi. Et on a partagé vraiment des moments qui seront gravés à jamais. Et donc ouais, c'est vraiment, je pense, la personne qui marque mon échange, parce qu'en plus de ça, il m'a accompagné tout au long de l'échange. Il s'est pas contenté des 3 mois où c'était mon père d'accueil.
Yes.
Il m'a vraiment soutenu tout au long, et c'est vraiment une personne avec qui je continue à parler toutes les semaines, et puis j'espère pour longtemps encore, quoi.
Génial. Est-ce qu'il y a d'autres comme ça, d'autres moments, que ce soit des personnes ou des moments ou des rencontres ou des activités qui t'ont marqué où je me dis putain, c'était génial ça aussi?
Ouais, il y en a vraiment beaucoup, comme je te dis. En fait,
Ah,
dans
ça va,
chaque
t'en
relation,
raconte pas,
ça
arrête,
fait.
vas-y, lâche-nous une ou trois
Ah,
anecdotes.
suivis-moi! Mais. Ouais, il y en a une vraiment qui est très émouvante pour moi. C'est donc une action Rotary, justement, dont je te parlais, où on a été repeindre des écoles.
Bah,
Donc, on
raconte,
a
vas-y,
repeint une
raconte-nous
école
comment ça s'est
dans.
passé.
Voilà.
Raconte
On
l'histoire.
est arrivé. Et donc, le but de cette action, c'est de repeindre des écoles assez pauvres, en fait. Hein,
Ouais.
vraiment, c'est dans des états. On n'a pas l'habitude de voir une école comme ça. Et donc, on est arrivé le matin, on a commencé à tout repeindre, tout retravailler. Et ensuite, les enfants arrivaient en fin de matinée pour passer un moment avec nous, quoi, pour qu'on leur montre ce qu'on avait fait. Et il y avait un petit garçon qui était vraiment super content de voir son école si changée. Et puis, on a commencé à lui parler. Et en fait, on s'est rendu compte que cet enfant, il était aveugle et aveugle de naissance. Mais il venait quand même à l'école tous les jours, pas une école spécialisée, bien au contraire. Et en fait, son grand frère l'amenait en moto à l'école le matin, donc à 6h30 justement. Et il venait le récupérer le soir. Et ce petit garçon, il avait une joie de vivre qui était juste folle. J'avais jamais vu ça. Il était content d'aller à l'école, de rencontrer de nouvelles personnes. Il nous a vraiment prouvé que bah, l'école, ça avait de l'importance. En fait, c'est, je pense, le problème aussi. Nous, en Europe, on se dit oui, à l'école, non, il y a des devoirs, c'est dur, on n'aime pas ça. Et en fait, grâce à lui, je me suis rendu compte qu'on avait une chance absolument immense. Et lui, il donne tout tous les jours pour pouvoir aller à l'école, pour réussir. Et il le montre dès qu'il peut par des grands sourires. Il est vraiment aveugle à 100%, donc
Wow.
il te touche. Il ressent tes émotions, je pense, un moment magique pour tous à ce moment-là. Il dégageait un aura absolument impressionnant, cet enfant.
C'est des rencontres qui marquent, ça. C'est des rencontres qui marquent
Ouais.
et je pense que ça te donne des belles leçons de vie. Justement, en parlant de leçons de vie, surtout quand on part à un si jeune âge, parce que c'est un jeune âge quand on parle en plus tout seul. Dans un autre pays qui a une culture relativement quand même différente. C'est quoi les leçons que tu as tirées de ce voyage? Tu sais, si par exemple tu devais me résumer ce voyage en trois grandes leçons que tu as apprises soit sur toi, soit sur la vie, ce serait lesquelles?
En trois grandes leçons, je vais commencer par le fait d'être remerciant dans toutes les conditions. C'est-à-dire que là-bas, je me suis vraiment rendu compte de la chance que j'avais,
La
pas que
gratitude.
d'être en voyage pendant 8 mois dans un autre pays, quoi. Ça, oui, forcément, c'était une base, mais aussi pour l'éducation qu'on m'avait donnée, pour ce que chaque personne m'apportait au quotidien, pour la chance que j'avais eue de naître bah, complet, on va dire. Que tout marche bien, voilà, j'ai
Ouais.
pas d'handicap, que ce soit physique ou moteur. Vraiment d'être remerciant et essayer de l'être au quotidien, d'avoir une petite pensée comme ça, de se dire ah, merci pour ce que j'ai, merci d'être là aujourd'hui, parce qu'on sait
Tu sais pas à
jamais,
qui en
on aurait
fait.
pu naître autrement, et puis voilà, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Donc voilà, ça c'est la plus grande leçon, je pense. Ensuite, c'est d'être vraiment ouvert sur l'autre. Je l'étais déjà à la base, mais ça m'a appris à essayer de chercher vraiment à connaître les personnes plus en profondeur, et pas juste salut, ça va, ouais, et toi? Je sais pas, on va boire un coup, ok. Non, vraiment plus creuser, apprendre sur la personne, sur son histoire et essayer de lui apporter quelque chose. Et en échange, elle va forcément t'apporter quelque chose, même si tu lui parles pas. Ça, c'est le plus beau dans les relations, c'est que juste parfois un regard, une
C'est
présence,
vrai, c'est
ça
vrai.
t'apprend beaucoup. C'est impressionnant, quoi.
Et il t'en reste une
Donc
dernière.
voilà. Il me reste une dernière. Une dernière, ça serait d'essayer de plus donner. Parce que bah justement le Rotary donne beaucoup et j'aimerais donner plus aussi tout au long de ma vie par la suite en plus de ce que j'ai donné pendant cette année-là parce que bah voilà j'ai donné du temps un petit peu d'énergie mais en soi c'était rien ça a représenté quoi peut-être 3 jours pendant mon année et j'ai apporté du bien aux gens je pense j'espère en tout cas et donc c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin que ça fasse partie dans ma vie future d'aider les gens. D'aider notre planète pour qu'elle aille mieux aussi. C'est vraiment, ça m'a donné cette envie-là de participer à plus d'actions dans ce style, en fait.
Est-ce que justement t'as des par rapport à ce que tu as vécu, les leçons que tu en as tirées, est-ce que si tu étais devant une classe de jeunes de 12-13 ans et que en gros tu pouvais leur donner des conseils qu'ils seraient obligés d'appliquer à la sortie de leur cours, à la sortie de leur classe, tu leur dirais quoi?
Et bah, je vais en dire un qui c'est pas forcément facile à comprendre, mais moi c'est celui qui m'a poussé en fait à faire tout ce que j'ai fait depuis le début. c'est le fait de se dire que les autres nous apprendront pas à nous réaliser soi-même et que c'est pas par soi-même qu'il faut tout faire. On attend beaucoup des autres, je pense, dans notre société. Ah. Et si on se dit que on peut tout atteindre, si on se donne la motivation, qu'on y réfléchit, et bah à ce moment-là, toutes les portes s'ouvrent et c'est juste magique. Et c'est une fois que j'ai compris ça que je me suis dit, si c'est possible de partir à l'étranger, je vais faire les recherches pour le faire. Je vais parler de ça avec mes parents, je vais trouver la meilleure option. Finalement, je sais plus. Voilà, peut-être qu'il y en a, ils vont penser, ouais, bah, c'est facile, les parents devaient avoir l'argent, ils ont aligné les bifetons et il est parti un an à l'étranger. Mais non, en fait, pas du tout. Par cette option-là, j'ai trouvé celle qui permettait de vivre une expérience magique, sans forcément débourser des milliers et des milliers d'euros. Mais vraiment, c'était des mois et des mois de préparation avant même de savoir que j'allais partir avec le Rotary. Il faut d'abord chercher, et bah c'est à ce moment-là, tu vois, où je t'ai connu, en cherchant pour partir en Nouvelle-Zélande, et je suis tombé sur ta vidéo sur la Nouvelle-Zélande.
Cool.
Et donc voilà, ça fait plus de 3 ans que je te suis maintenant, et je suis content que ça se passe comme ça, qu'on arrive à faire cette vidéo, parce que voilà, c'est vraiment se dire que par soi-même, on peut réussir. Et c'est ça qui m'a poussé à tout faire.
Mais je pense que c'est une super leçon, et c'est magique que tu la comprennes aussi jeune. C'est finalement être proactif dans sa vie, plutôt qu'être passif. Et c'est vrai que on a cette tendance, en plus, ben voilà, c'est aussi une chance en France d'être assisté, j'ai envie de dire, parce que assisté, c'est quand ça va pas, quand je sais pas, on est femme, mère célibataire, ben on a des aides, enfin on a beaucoup d'aides en France, donc ça c'est très bien. Mais ça a aussi un côté négatif, c'est que ben, finalement ça tue un peu le pouvoir de prise de décision, d'initiative, de créativité, parce qu'on attend que tout vienne la solution de l'État. Ouais. Ah bah l'État, faut qu'il mette ceci, faut qu'il mette cela, faut que machin, faut que ceci. Ouais bah en fait non, l'État. Déjà l'État, potentiellement en ce moment, il est bien en train de nous carotte, nous le mettre à l'envers avec toute cette histoire. Mais,
ouais.
Mais c'est aussi, en fait je pense que ce que ça nous permet, c'est de se dire, ok, en fait, très bien si l'État nous aide, super, merci, on va pas le cracher dessus, mais c'est en plus de ce que moi je vais impulser, c'est en plus de ce que moi je vais réaliser, c'est en plus de des projets que moi, de la connaissance que je vais acquérir, de la condition physique que je vais sculpter, de l'intelligence que je vais me forger, et des solutions que moi-même je vais trouver. Et c'est, tu vois, j'aime bien dans le monde anglo-saxon du travail, on appelle ça l'extra mile, en fait. C'est que être proactif, c'est pas juste faire ce qu'on attend de toi, et un peu bêtement, comme tu dis, c'est à l'école, etc., terminé, ou aller à ton travail. C'est faire le truc en plus qui fera la différence, qui fait que tu vas te créer la chance, qui fait que tu vas en fait dénicher des opportunités, que tu vas aller au bout des choses que 95% des gens ne feront pas, parce qu'ils vont s'arrêter au truc auquel on s'attend, à ce qu'on attend d'eux, et terminer en fait. Et c'est une super... franchement, bravo de comprendre ça, parce que, tu sais, je discutais pas mal aussi avec des gens qui disent, mais je galère à recruter dans des entreprises, ou pour leur job, que ce soit dans des entreprises, mais même de loisirs, dans le tourisme. Il dit, j'arrive pas parce que les gens, ils comprennent, je tombe sur personne de sérieux, ça pique dans la caisse, ça vient pas aux horaires, etc. Et en fait, quand tu te rends compte dans la vie que si t'es sérieux et que tu fais en plus un tout petit peu plus de ce qu'on te demande, même pas dingue, mais en fait, tu te tapes dans le haut du classement, mon pote, t'es dans le gratin de la France. Et c'est peut-être bête, mais en fait, en étant tout de suite dans le haut du classement, eh ben, tu vas t'octroyer des opportunités que t'aurais peut-être pas eu. Et c'est ça qui est fantastique, en fait. Et tant mieux,
ouais.
Et je trouve que si tout le monde commence aussi à penser comme ça, bah c'est tant mieux, on se tire vers le haut, ça c'est cool. Et là on a traité beaucoup la partie, ok c'est cool, c'est génial, c'est beau, j'ai appris plein de choses, à part le moment à Noël où c'était très très difficile de ne pas être avec ses parents, ou le Covid, est-ce que tu as eu des frayeurs, est-ce qu'il t'est arrivé des choses où on t'a peut-être braqué, où t'as peut-être perdu des choses, où il t'arrive des circonstances, peut-être des situations difficiles pendant ces mois?
Il y a eu une frayeur, ouais, une bonne frayeur. Donc j'étais à Medellin.
Ah.
Alors voilà, bah, forcément quand on entend Medellin, on pense vraiment à tout ce qui s'est passé, à Pablo Escobar, à la violence, à la drogue. Et moi j'y allais sans savoir du tout ce que c'était Medellin, ce qu'on avait entendu comme ça, mais pas beaucoup plus. Et donc j'ai passé ma première journée là-bas à découvrir, à profiter. Tout allait super bien. Et puis le soir, on allait manger au restaurant et on s'est dit, bah, pourquoi pas visiter le parc Botero, je sais pas si tu connais.
De nuit ?
Et à Medellin. De nuit, tout à fait. Notre maire d'accueil qui nous dit, on va aller faire ça. Et bah, nous.
Ah, c'était la locale en plus.
C'était la locale, c'était ma deuxième maire d'accueil.
Ah, ouais, d'accord. Ouais.
Et donc elle nous emmène, on y va, on regarde. Bon, déjà, ça nous semblait bizarre, il y avait des gens qui traînaient un petit peu. On se méfiait, mais légèrement. Et on prenait nos photos avec les statues. Et donc, il y a deux policiers qui sont arrivés derrière nous et qui sont allés interroger deux personnes derrière. Et ils ont sorti un couteau assez long de leur poche. Ils sont venus nous voir, ils ont dit, non, ça va pas être possible, faut pas rester ici, là, ça devient trop dangereux. On vous accompagne jusqu'à la voiture et vous partez. Donc, on a
Attends,
commencé à
c'est les
courir
flics qui ont sorti un couteau?
de la poche de ceux qu'ils avaient interrogés, en fait. Alors, il y
Ah
avait deux
ouais.
personnes derrière nous
Ah
et ils leur
ouais.
ont sorti un couteau. Donc là, ouais, on a vraiment pris peur. Ils nous ont raccompagnés jusqu'à la voiture. On a démarré en trombe. On a pris la première à droite. Et là, on est tombé. J'ai pas les mots tellement. Les émotions me reviennent. C'était Walking Dead. Vraiment. C'était fou. Il y avait je sais pas, une cinquantaine peut-être de personnes dans cette grande avenue, toute sombre, pas de lumière, et qui étaient avec leur sac plastique en train de respirer je ne sais quelle chose, quelle substance. Ils marchaient au ralenti, ils étaient à peine vêtus d'un caleçon et ils étaient tous absolument squelettiques. Donc là, notre mère, elle était en panique, enfin notre mère d'accueil, donc elle était en panique et elle disait au chauffeur d'accélérer, d'accélérer. Et sauf que bah on savait pas comment agir dans cette situation. On a été au plus vite possible à sortir de cette rue. On est tombé sur deux autres flics et on leur a dit s'il vous plaît, accompagnez-nous ailleurs. Et c'était vraiment, on s'attendait pas à ça. À une rue près, tu tombes dans les quartiers chics, avec tous les restaurants, les bars, et tu
Ah
t'enfonces un
ouais.
tout petit peu plus loin, si tu sais pas, tu tombes ici. Et là, nous on était en voiture, mais si t'es à pied, on sait pas ce qui peut se passer. Donc c'était vraiment une frayeur absolument monstre.
Mais je pense qu'en plus c'est exactement ça, c'est que bon, j'imagine qu'il doit y avoir des choses comme ça en France, mais c'est pas aussi contrasté et c'est pas aussi violent visuellement, voire physiquement en fonction de si t'es pas en voiture, comme tu dis. Et il y a vraiment quelque chose d'important. La notion que tu dis, c'est d'une rue à l'autre. Ça bascule dans l'ambiance, dans les gens qu'il y a, qui sont malheureusement, bon voilà, il y en a, ils sont pauvres, il y en a, ils sont tombés dans le crack, etc. Alors, je pense pas que c'était du. Ils mangeaient pas des petits bons becs et des petits haribos, je pense qu'il y en a dans leur sac plastique, c'était
Non,
pas des.
pas
Non,
trop.
ils sortaient pas de chez le boulanger, à mon avis, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un conseil que je donne qui est vraiment très important quand on se balade, surtout en Amérique latine, qui est réputée pour potentiellement sa violence. Surtout la nuit, c'est demander toujours où est-ce que vous pouvez aller aux locaux, que ce soit ton hébergement, à l'accueil, à l'auberge de jeunesse, au suite t'as loué ton Airbnb, tu dis est-ce qu'il y a des rues à éviter? Est-ce que sur un plan, est-ce qu'il y a un trottoir à éviter? Des fois ça joue d'un trottoir à l'autre, c'est-à-dire que si t'es en face c'est chaud, si t'es dans l'autre ça va. Et en fait faut pas blaguer avec ça parce que ben c'est comme ça, cette rue-là elle est dangereuse, l'autre pas. Tu t'y aventures, parce que tu veux gagner un bloc ou tu veux gagner 200 mètres. Tu joues avec le feu parce que ben c'est pas la même culture, c'est pas la même réalité. Et effectivement, ben, vous avez eu de la chance que les deux mecs, ben, ouais, ils vous auraient braqué avec leur machette en fait. Hein, c'est un pied un couteau, c'est une machette hein, là-bas. Hein. On
Ouais, vu
sort
la
pas des
taille, oui,
canifs,
c'était ça.
c'est. Hein, t'enlèves un membre. Ben, c'est là, c'est une autre réalité. Et peu importe que ce soit en Amérique latine, en Amérique centrale, ou on a peut-être en Afrique du Sud, etc., faut faire très attention à ça parce que. Faut pas se couper dans les genres de pays qui sont absolument magnifiques. Et voilà, depuis le début du podcast, on t'entend parler avec des étoiles dans les yeux. Mais il faut pas négliger. En fait, dès que tu prends un mini risque, tu peux être très vite sanctionné. Et la sanction, c'est pas une amende, si tu veux. C'est si
Ouais.
tu t'en sors bien, si tu te fais prendre ton téléphone, potentiellement, tu peux te prendre un coup de feu, tu peux te prendre un coup de machette. Enfin, ça arrive vite en fait. Et c'est pour ça que le soir, en général, en Amérique latine, surtout en Colombie, eh ben, les gens se baladent pas vraiment à pied en fait. Allez,
Non, non, du
tu
tout.
balades, tu prends un taxi. Même si tu fais des fois 500 mètres ou 1 km, tu prends un taxi en fait. C'est comme ça, tout le monde le fait, les locaux le font, donc tu fais comme les locaux. Et même si toi en France, ta réalité, c'est d'aller te balader, de faire ta petite balade digestive, eh ben, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et ça, c'est. Non, mais
Ouais.
c'est. Tu vois, c'est une très bonne anecdote qui je suis ravi que ce soit bien terminée. Mais faut pas jouer avec le feu, faut pas faire le caïd. Parce que là-bas, il y aura des plus gros caïds que toi de toute façon. Donc ça,
Ouais, clairement.
c'est vraiment important. Est-ce qu'il y a une petite anecdote un peu marrante? Est-ce que tu en as une sous le coude où t'es arrivé? Ou peut-être, je sais pas, vu que t'étais un petit peu en soirée et tout, j'en sais rien, ou pas du tout, ou au plein milieu d'un. Parce que t'as découvert un peu la Colombie, si je comprends bien, donc peut-être qu'il y a des anecdotes que t'as
Ouais.
vécues. T'as des petites stories un peu drôles, un peu marrantes?
Ouais, forcément,
Ah!
forcément. Ah, il y en a eu une marrante à une soirée avec des amis de mon âge. Et donc, en soirée, forcément, un petit peu arrosé,
Voilà, c'est la
on boit, on
Colombie,
danse,
voilà.
voilà, on profite, hein, c'est la culture,
Et
faut
là.
pas cracher dessus. Et donc, on passait une bonne soirée, et puis c'était dans une de ces fameuses fincas avec une piscine. Et puis bon, ouais, on était au mois de novembre, même si on est en Colombie, ça se rafraîchissait quand même. Et puis, personne voulait trop se mettre dans la piscine. Et moi, tout content, je dis, allez, on y va. Et personne n'était motivé. J'y vais quand même, je me change, je me mets sur le plongeoir, et je crie, piscine! Et je me jette, et tout le monde est arrivé. Et après, c'était, tout le monde parlait, tout le monde rigolait, il y avait une ambiance, alors que le début de la soirée était pas forcément exceptionnel. Et puis juste, en fait, cette petite action, on est parti à passer une soirée absolument inoubliable et super drôle, tout le monde rigolait. Et ouais, ça, c'était vraiment un beau souvenir bien marrant.
Ça, tu vois, des fois, putain, moi qui suis tout le temps en train de me baigner et de dire à tout le monde, à tous mes potes qui sont avec moi, dès qu'il y a un point d'eau, dès qu'il y a une rivière, je fais allez, on va se baigner. Qui dit eau, dit baignade, tu vois. Et ben, je te jure, il y a cet effet-là, les gars, et souvent, ben, les gens sont réticents. Surtout s'il y a un petit côté, faut se déshabiller, faut se rhabiller, j'ai rien pour me sécher, j'ai pas mon maillot de bain, ou alors l'eau elle est froide. Mais en fait, je sais pas comment expliquer, l'eau, ça a un effet vivifiant sur l'être humain, il y a un effet où. Ça t'enlève les émotions, ça te les exacerbe, c'est et encore là, c'est une piscine, mais dans une rivière, dans un lac ou dans la mer, c'est encore plus fort. Mais peut-être que l'alcool a compensé le fait que c'était pas une rivière, toi. Peut-être que ce qui
Il
coulait
y a
dans
de
vos
fortes
veines,
chances.
il y avait peut-être des rivières d'alcool qui coulaient dans vos veines, donc finalement ça matchait aussi, ça marchait bien. Ça marchait bien.
Ouais.
J'aime bien finir ce podcast avec deux questions traditionnelles que tu connais peut-être si tu as écouté le podcast, c'est si tu devais résumer ce voyage en une phrase de ta création, une citation que t'aimes bien ou une punchline, ce serait laquelle?
Bah moi je vais prendre celle qui m'a motivé à faire tout ça, du coup qui est de IAM, un groupe de rap. Qui dit ici-bas on t'apprend à vivre, pas à te réaliser. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment celle-ci qui m'a tout fait
Putain.
entamer toutes
Alors
les procédures.
ça, j'adore parce que Aya, mec, ils avaient arrêté de chanter quasiment quand t'es né. Enfin, je veux dire, c'est ma génération. Et en général, je suis étonné qu'un mec de 17 ans, il écoute Aya. Et en plus, je ne connais pas cette punchline alors que j'aime beaucoup Aya. Donc, écoute,
Rêve grande boîte, ça écoute.
c'est totalement validé. Dernière question, si je te file les clés de la DeLorean. Du coup, vu que t'es jeune, retour vers le futur. C'est une voiture qui voyage dans le temps.
Ça va, je connais quand même.
Ok, tu connais tes classiques. Si je te file les clés pour aller revivre un seul moment de ce voyage, ce serait lequel?
Ça serait celui où j'étais en voyage avec tous les étudiants d'échange du pays dans la zone Caraïbe, donc au nord de la Colombie,
Ah ouais.
où on était à Santa Marta dans le Parque Tayrona. Je pense que tu connais,
Je connais
c'est
bien.
un des plus connus, enfin, si ce n'est le plus connu du pays. Et donc on arrive dans un camping où c'est tout vraiment en bambou, en mode éco-lodge, super sympa. Donc on arrive à peu près au moment du coucher du soleil. Donc je pose mes affaires dans le hamac, puis je vais sur la plage avec les autres pour aller voir ça. Et là, c'est absolument magnifique, quoi. Un coucher de soleil comme j'avais jamais vu. Et je vois au loin un gros rocher vraiment qui il m'attirait, il me disait viens me voir. Et donc personne n'y allait, c'est bizarre, on n'a peut-être pas le droit, je demande, personne ne sait. Donc j'emmène deux amis et puis on commence à monter sur ce rocher, rocher assez grand quand même, une trentaine de mètres de haut, mais bon on y va. Et là c'était la plus belle vue que j'ai jamais vue. Je suis resté la bouche ouverte, il y avait à ma gauche la forêt, les rochers, la mer, le ciel qui était tout bleu et en même temps qui commençait à rosir avec le soleil qui se couchait. C'est absolument le plus beau coucher de soleil de ma vie. J'adore les couchers de soleil, j'en ai vu beaucoup, des magnifiques, mais celui-ci, c'est le meilleur de tous, quoi.
Eh bien, je pense que ça, si c'est pas une magnifique et superbe façon de terminer ce podcast, j'ai envie de te dire, mon pote, j'étais avec toi. J'étais de retour dans le parc de Tayrona parce que je l'ai vu, ce coucher de soleil. Et il claque, clairement.
Ah
Et
ouais.
en plus, il y a une espèce de douceur et de légèreté de vivre. J'espère qu'elle est encore là-bas. Peut-être qu'ils ont augmenté la fréquentation, je sais pas. Mais il n'y a pas tant de monde que ça. C'est très à la
Non.
route. Et du coup, t'as une
Ouais.
espèce de légèreté qui t'emporte parce que voilà, le décor, comme tu dis, ben, tu l'as très bien décrit. Il est dingue, enfin, c'est incroyable, c'est idyllique. Écoute, internaute, avant de nous quitter sur ce podcast, il y a toujours un truc qui nous fait plaisir, c'est les petites dédicaces en story. Donc n'hésite pas à nous taguer parce que bah, on aime bien toujours savoir ce que tu as pensé du podcast ou comment et où tu l'as écouté. Peut-être que tu es en Colombie, peut-être que tu es aussi en échange Rotary, en VIE, en road trip ou quelque part dans le monde planqué parce que tu veux pas rentrer en France pendant cette période de Covid. Et je te dis, bah, j'espère que tu kiffes bien et fais-nous des petites dédicaces. Et moi, Evan, je vais te dire bah, merci beaucoup d'avoir bah, voulu partager ça en fait. D'avoir voulu partager le fait que bah, montrer aux jeunes et surtout aux mineurs et aux jeunes mineurs que c'était quand même possible de voyager quand on s'en donnait les moyens, pas besoin justement de bah, d'être majeur, d'avoir un taf, d'avoir de l'argent. Il y a d'autres façons de faire quand on se donne les moyens. Et c'est toi qui m'as contacté pour partager ça et j'ai trouvé la démarche absolument géniale. Donc, merci pour ça. Et
Ouais,
je te dis bonne chance pour la suite parce que j'ai l'impression que ta vie elle commence plutôt pas mal, mon pote. Je te dis à
merci à
très
toi. Ouais, je
vite.
crois aussi.
Allez, ciao.
À très vite. Ciao.